Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous arrivons à l'étude numéro 7 et ce sera la dernière étude sur cette série, première série. Ensuite, il y a la deuxième série. Donc, on se rappelle que le titre général, c'est croire ce que dit les Saintes Écritures. Croire comme le dit l'Écriture Sainte. Eh bien, notre thème aujourd'hui, un peu particulier, on peut y donner comme titre que sans motivation, il est impossible de servir le Seigneur. Une personne qui considère tout comme un fardeau ne peut pas être un serviteur fidèle du Seigneur. Elle ne peut même pas être un serviteur fidèle des hommes. Certains prétendus serviteurs de Dieu à plein temps s'estiment super spirituels à un tel point qu'ils n'éprouvent aucun besoin de travailler durement ou de rendre compte à quiconque de leur labeur. Heureusement qu'ils sont une minorité, c'est vrai. S'ils étaient employés dans une entreprise séculière, aucun patron ne tolérerait leur négligence. En réalité, ils se trompent eux-mêmes en pensant pouvoir servir Dieu sans aucun zèle véritable. Combien il est nécessaire que nos caractères soient disciplinés, oui, disciplinés, pour que nous cessions de trouver notre travail ennuyeux et qu'au contraire, nous nous estimions privilégiés de pouvoir consacrer en permanence temps, force et ressources matérielles au service des autres. L'apôtre Paul ne se dépensait pas seulement dans le ministère spirituel, mais il connaissait aussi le dur labeur manuel. Il est dit, « Vous savez vous-même que ses mains, ses propres mains, ont pourvu à mes besoins et même à ceux des personnes qui étaient avec moi. » Actes chapitre 20, verset 34. Tel est donc le véritable serviteur de Dieu. Notre Seigneur dit en une certaine occasion, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Saint Jean, chapitre 5, verset 17. Il pose à ses disciples cette question bien à propos. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Et répondant lui-même à sa question, il ajoute, « Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Saint Jean, chapitre 4, verset 35. Les disciples étaient prêts à attendre 4 mois pour s'attaquer à la besogne. Mais notre Seigneur affirme qu'il est temps de s'y mettre tout de suite et non pas dans un avenir plus ou moins lointain. Levez les yeux et regardez. Ces paroles dépeignent la source d'ouvriers dont il a vraiment besoin, ceux qui n'attendent pas que le travail vienne à eux, mais qui ont des yeux pour voir ce qui est à faire. Notre Seigneur était toujours prêt, oh oui, il était toujours prêt à travailler en coopération avec le Père dans toute son œuvre. et comme le père était continuellement actif, le fils l'était aussi. Ce n'est pas l'activité fébrile de personnes aux dispositions agitées qui pourvoiront le mieux aux besoins de l'œuvre de Dieu, mais c'est la promptitude simple d'un serviteur zélé, habitué à lever les yeux et à voir toujours l'ouvrage du Père qui attend sa coopération. Oui, qu'il est pénible, oh oui, de voir combien peu de gens savent discerner ce que Dieu accomplit aujourd'hui. Il est tragique, mais possible, de passer à côté de champs qui sont prêts pour la moisson, sans apercevoir le grain mûr. Il est possible que la tâche se trouve à la portée de la main, sans que nous la remarquions. Les chrétiens qui n'ont pas conscience de l'urgence de la tâche et qui peuvent attendre tranquillement 4 mois avant de se mettre franchement à l'œuvre, ça, ce sont des serviteurs inutiles. Jésus-Christ a besoin d'ouvriers qui utilisent jalousement les moments qui passent et qui ne remettent jamais au lendemain ou au surlendemain ce qu'ils peuvent faire le jour même. En certains endroits, la moisson ne peut pas être mise en grange à cause de chrétiens qui sont bien trop nombreux, mais qui n'aiment pas du tout le travail. Le zèle, ça, croyez-moi, c'est l'essentiel dans notre service pour le Seigneur, mais il consiste avant tout en une attitude intérieure, sans aucun rapport avec les activités extérieures. Nous ne devons pas céder à notre indolence inhérente, mais nous devons avoir à cœur le développement de nos dispositions à être zélés. Cependant, si nous sommes paresseux de nature, eh bien, un simple effort de notre part pour travailler un peu plus, ça ne servira pas à grand-chose, car après chaque coup de collier, nous glisserons à nouveau dans notre paresse naturelle. Nous avons besoin d'une transformation de notre nature même. La parole du Seigneur qui dit « Cherchez et sauvez ce qui est perdu », cela nous devrait être familier. Il n'est pas venu simplement pour entrer en contact avec les hommes. Il est venu pour les chercher et pour les sauver. Et avec quel zèle ne les a-t-il pas cherchés et sauvés? Voilà la disposition d'esprit qu'il nous faut à tous. Au premier chapitre de ce second épître, l'apôtre Pierre écrit « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété et à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. » Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 5 à 7. Ces adjonctions successives caractérisent toute personne zélée. Oui, il faut que nous puissions, on peut dire, cultiver une attitude intérieure qui cherche sans cesse à faire de nouvelles conquêtes dans le domaine spirituel. c'est ainsi que nous deviendrons des chrétiens utiles au Seigneur. Certains chrétiens semblent être presque dépourvus de tout sens de responsabilité. Ils ne se rendent pas compte de toute l'étendue du champ. Ils ne discernent pas la nécessité d'atteindre les extrémités de la terre avec l'Évangile. Ils accomplissent leurs petites besoignes, espérant que tout ira pour le mieux. S'ils n'ont pas vu une seule âme d'être sauvée, ils trouvent cela tout à fait normal et espèrent vaguement que les résultats seront meilleurs demain, ou va savoir après-demain. Mais si aucune âme n'est encore sauvée demain, ils s'accommodent de l'inévitable. Ils s'en accommodent très bien. Notez que le zèle, ça, c'est quelque chose qui chasse l'oisiveté. L'oisiveté trouve ses racines dans la paresse, et le zèle en est le remède. Si nous sommes toujours désœuvrés, eh bien nous devons nous prendre énergiquement en main, secouons un peu nos fesses pour acquérir ce qui manque à notre nature. Après avoir remédié à la première déficience, nous devrons remédier à la seconde, puis à la troisième, et ensuite à chacune des suivantes, jusqu'à ce que nous ne soyons plus oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous agissons ainsi par la force divine, cette force qui nous en rend capables, eh bien, il y aura une transformation qui va se manifester dans nos caractères. Nous cesserons d'être des amateurs et nous deviendrons de ceux qui aiment travailler dur, serviteurs joyeux du Seigneur. Pierre est inlassablement zélé afin de susciter ce zèle chez ses lecteurs. Notez ce qu'il dit au verset 15. J'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce qui nous frappe ici, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'une activité extérieure, mais d'un impératif intérieur, oui, un impératif de l'esprit qui a engendré ces efforts infatigables de sa part. Oh, que nous puissions prendre conscience du poids de notre responsabilité, de l'urgence des besoins de nos proches et de la fuite du temps. Car le temps passe plus vite que vous pensez. Que nous sert-il de dire que nous sommes ardents à servir le Seigneur si nous ne nous arrachons pas à notre léthargie? Et à quoi nous servira toute notre connaissance de la vérité si nous ne sommes pas libérés de notre indolence innée? Lisez, s'il vous plaît, attentivement Saint Matthieu chapitre 25. Nous voyons dans cette parabole un serviteur du Seigneur qui est placé en face de deux accusations devant le tribunal de Dieu, méchanceté et paresse. Le Seigneur prononce lui-même la sentence. Il dit, et le serviteur inutile, « Jetez-le dans les ténèbres du dehors », verset 30. Le verdict du Seigneur à l'égard du serviteur paresseux se résume dans cet adjectif « inutile ». Seul un serviteur zélé peut lui être utile. ne traitons pas ce sujet à la légère, mais à partir d'aujourd'hui, prenons-le comme un avertissement solennel. Regardons au Seigneur afin qu'il nous rende capables de rejeter nos habitudes de paresse. Comme cette habitude s'est parfois enracinée en nous, et cela au cours de nombreuses années, nous ne pouvons pas espérer en être délivrés en un jour ou deux, ni nous attendre à l'éliminer par quelques doux traitements. Pour ne pas nous attirer du Seigneur même, la redoutable sentence de serviteur inutile, nous devons nous traiter sans aucun ménagement à sa lumière. Je répète, pour ne pas nous attirer du Seigneur lui-même, la redoutable sentence de être appelé ou catalogué de serviteur inutile, eh bien nous devons nous traiter sans aucun ménagement à sa lumière. Une autre qualité indispensable à tout serviteur de Dieu, c'est la stabilité. Beaucoup de chrétiens sont très versatiles. Ils sont comme, vous savez, au plafond, dans certains pays, il y a des hélices qui tournent pour donner un peu d'air. Hélas, leur humeur change, Elle change avec le temps, et ils deviennent par moments un peu comme un jouet des circonstances, de sorte qu'on ne peut pas se fier à eux. Ils ont de bonnes intentions, c'est vrai, mais en se laissant aller à leurs émotions, ils perdent souvent l'équilibre. La Sainte Bible nous dépeint un homme de tempérament inconstant que nous connaissons sous le nom de Simon Pierre. Un jour, le Seigneur demanda à ses disciples l'avis des gens à son sujet, et eux de répondre que certains le prenaient pour Jean-Baptiste, d'autres pour Élie, d'autres encore pour Jérémie ou pour l'un des prophètes. Alors il leur posa la même question. Et vous, qui écoutez, vous qui êtes en face de moi, qui dites-vous que je suis? Eh bien, la réplique de Simon Pierre est merveilleuse. Elle est spontanée. Il dit : tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On peut dire, il entraîna aussitôt cette déclaration de la part du Seigneur. Eh bien, tu es heureux, Simon, toi, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Saint Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 18. Ça n'a rien à faire avec Rome. Excusez-moi. Notez bien, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Le Seigneur semble rappeler ici le contraste qu'il établit dans le sermon sur la montagne entre le sage qui avait construit sa maison sur le roc de sorte qu'elle résista aux eaux et à la tempête, et l'insensé qui, lui, l'avait construite sur le sable tant que si bien qu'elle s'effondra. Peu importe l'épreuve que l'Église est appelée à affronter, elle ne peut pas s'écrouler, car elle est fermement établie sur le roc, sur Jésus-Christ. Plus tard, l'apôtre Pierre écrivit « Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » 1er épître de Pierre, chapitre 2, verset 5. La superstructure de l'Église est composée de la même substance que les fondations. Et comme les fondations sont stables, la superstructure l'est aussi. La stabilité est un trait nécessaire dans le caractère de tout serviteur de Dieu, car chacun d'entre eux est une pierre vivante. Jésus-Christ dit à Pierre, « Tu es Pierre », en grec « Petros », donc une pierre. Et sur cette pierre, en grec « Petra », je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans un édifice, une pierre n'est pas une masse énorme de rochers comme le sont les fondations, mais, quoique différentes par leurs dimensions, fondations et superstructures, elles sont néanmoins semblables par leur substance. Tout membre qui constitue une partie de l'édifice de l'Église est peut-être infime quant à sa dimension, mais quant à sa nature, il ne diffère en rien de la tête de l'Église. Remarquez la suite du passage que nous avons cité. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. » Cette promesse faite à l'apôtre Pierre, elle fut adressée ensuite à l'Église. Voyez ou notez Saint Matthieu, chapitre 18, verset 18. Il est donc évident que l'apôtre Pierre est pris ici comme individu, mais c'est en tant que ministre de Christ que les clés du royaume lui sont remises. Et lui sont confiées afin qu'il puisse remplir la fonction de celui qui ouvre les portes. C'est ce qu'il a fait à la Pentecôte et plus tard dans la maison de Corneille. Dans le premier cas, il a ouvert la porte du royaume aux Juifs et dans le deuxième, aux non-Juifs. Pourtant, lorsqu'à Césarée de Philippe, le Seigneur Jésus s'adressa à l'apôtre Pierre, son caractère ne correspondait pas à son nom, de sorte qu'il fut incapable d'employer cette fois-là les clés du royaume. Cependant, après avoir été, par la grâce du Seigneur, délivré de son instabilité naturelle, il est devenu un ministre de Christ véritable. Il est devenu ferme comme le roc. Il est devenu capable d'utiliser les clés qui lui avaient été confiées et de lier et de délier avec l'autorité promise par son divin maître. Aucune personne de tempérament inconstant ne peut exercer un ministère de cette nature-là. Le caractère du serviteur ou de la servante doit aller de pair avec celui du ministère. Il faut que tous les deux soient semblables à l'Église contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Hélas, elles prévalent sur le chrétien qui reste vacillant. Et c'est pourquoi on ne peut compter sur lui dans l'œuvre. Si nos natures instables ne sont pas transformées, nous demeurons incapables d'assumer les fonctions du ministère spécifique qui nous est confié, mais gloire soit rendue au Seigneur, car il dispose de grandes ressources pour transformer nos caractères. Il l'a fait pour l'apôtre Pierre. Il peut venir à bout de toutes les formes de faiblesse qui altèrent nos vies et ainsi nous façonner à nouveau pour nous rendre propres à l'accomplissement de son véritable dessein. Voyez-vous, la Sainte Bible nous dit que ce fut par révélation que l'apôtre Pierre reconnut Jésus comme le Christ, comme étant le Fils du Dieu vivant. Il n'aurait jamais pu faire de lui-même cette merveilleuse découverte, et aucun homme n'aurait pu transmettre une telle connaissance. Mais c'est Dieu qui la lui révéla. Après cette confession de l'apôtre Pierre, Jésus se mit à révéler aux disciples quelque chose des souffrances par lesquelles il allait bientôt passer, et il leur parla en détail de son imminente crucifixion et de sa résurrection. L'apôtre Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre en disant « À Dieu, oui, à Dieu ne plaise, Seigneur, eh bien, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan. » Saint Matthieu, chapitre 16, versets 22 et 23. Remarquez un peu l'oscillation soudaine du pendule. On peut bien dire ça. L'apôtre Pierre, qui vient d'atteindre des sommets sublimes, tombe déjà dans un abîme redoutable. À peine après avoir confirmé que l'apôtre a eu une révélation divine et merveilleuse, le Seigneur le traite d'instrument entre les mains de l'ennemi. À un certain moment, l'apôtre Pierre déclare au Seigneur « Tu es le Christ, oui, tu es le Fils du Dieu vivant. » Et peu après, incroyable mais vrai, il s'oppose brutalement à lui. Ces deux moments-là, tellement rapprochés, sont deux pôles différents dans l'expérience spirituelle. Et ce même homme, après avoir été un vase de la révélation divine, en un clin d'œil, devient un instrument entre les mains de Satan pour essayer d'empêcher le Seigneur d'aller à la croix. Le Seigneur réagit sur le champ et interpellant directement l'apôtre Pierre, qu'il vient de déclarer bienheureux, il lui dit « Arrière de moi, Satan !» Un laps de temps bien court, il me semble, s'est écoulé depuis que Pierre a entendu les paroles « Tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église. » Comment un homme, vaincu lui-même par Satan, pouvait-il servir à l'édification de l'église contre laquelle, selon le Seigneur, les portes de l'enfer ne devaient pas prévaloir? Si jamais l'apôtre Pierre devait être appelé à quelque service, il lui fallait subir un changement radical. Et c'est justement ce qui s'est produit. Étudions un peu le récit relaté au chapitre 26 de l'évangile de Matthéus. Lorsque, après la célébration de la Pâque, les disciples furent réunis autour du Seigneur, il leur dit, « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. » L'apôtre Pierre, mu souvent par son caractère très impulsif, protesta tout aussitôt. Ça, c'est son caractère. Mais il a du bon. Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Ah, ça c'est l'apôtre Pierre. Il contredisait clairement le Seigneur, mais ce faisant, il n'agissait pas par bravade. Il était vraiment fermement convaincu qu'il disait la vérité et comment. Et ce fut à cause de cette confiance de l'apôtre Pierre en lui-même que le Seigneur insista sur ce fait qui par ailleurs concernait tous les disciples. Il s'adressa donc directement à lui afin de lui enlever le moindre doute de ne pas être inclus dans le nombre de ceux qui l'abandonneraient. Il prit même le soin de lui donner des détails décrivant les profondeurs dans lesquelles il allait tomber. Mais la confiance de l'apôtre Pierre en lui-même avait de si profondes racines que toutes les affirmations du Seigneur ne purent le convaincre et il se mit à protester avec plus de véhémence que jamais. Il a dit, « Même s'il me faut mourir avec toi, eh bien je ne te renierai pas. » Point barre. L'apôtre Pierre ne voulait décevoir personne et il était très sincère dans ce qu'il disait. Il aimait vraiment le Seigneur et il voulait le suivre sans réserve. En tenant de tels propos, il exprimait sans doute le désir profond de son cœur, mais se faisant des illusions sur l'homme qu'il aurait voulu être. L'apôtre Pierre désirait ardemment payer le prix le plus élevé s'il le faut, en suivant son Seigneur. Mais il n'était pas le genre d'homme qu'il pensait être. Il ne possédait pas les ressources nécessaires pour payer un tel prix. Et peu de temps après que l'apôtre Pierre a eu à plusieurs reprises a déclaré au Seigneur qu'il le suivrait à tout prix, rappelez-vous. Et Jésus lui a dit, ainsi qu'aux deux autres disciples qu'il avait amenés avec lui en un lieu retiré du jardin de Gethsémané, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, s'il vous plaît, et veillez avec moi. » Mais voilà, ils s'assoupirent tous les trois. Il s'adressa de nouveau à Pierre de façon plus personnelle en lui disant, « Vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi ?» Sans attendre sa réponse, il ajoute, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Chers amis, j'en sais quelque chose, et j'ai demandé pardon au Seigneur bien des fois. Tel était notre ami Pierre, il était plein de bonne volonté, mais hélas, il était versatile. Or, voici un nouveau tableau. Une fois encore, l'apôtre Pierre change d'attitude en face de l'évolution des circonstances. À la vue de cette foule venue pour se saisir de Jésus, tout son être se révolte. Il étend la main, tire son épée du fourreau et coupe tout simplement l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Cela ne prouve-t-il pas qu'il est vraiment prêt à mourir avec son Seigneur? Mais attendez un peu. Jésus est fait prisonnier, et voilà qu'on l'amène seul. Où est notre ami Pierre? Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite, et l'apôtre Pierre a lui aussi déserté. Marc rapporte ceci. L'apôtre Pierre l'a suivi de loin jusque dans la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffa près du feu. Saint Marc, chapitre 14, verset 54. Soudain, l'une des servantes du souverain sacrificateur le reconnut et s'exclama « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth ?» Il le nia, disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Versets 67 et 68 de Saint Marc, chapitre 14. Est-ce bien notre ami Pierre qui s'était enhardi ce jour même jusqu'à couper l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur? Eh bien oui, c'est bien lui. C'est bien lui qui renie maintenant son Seigneur, terrassé par la peur d'une simple servante l'identifiant pour l'un des disciples de Jésus. Et peu de temps auparavant, notre ami Pierre avait voulu le suivre. Il avait voulu le suivre même au prix de sa vie. Et maintenant, il veut préserver cette petite vie avec autant d'acharnement. La grande vague d'émotion qui l'avait saisie, elle est déjà du passé. Et tandis que Jésus est humilié dans la cour de justice, l'apôtre Pierre cherche à éviter toute participation à ses souffrances. Aussi quitte-t-il la cour. Il entend alors les propos d'une autre servante s'adressant à ceux qui se trouvaient là. Eh bien oui, celui-ci est aussi l'un d'eux. Et aussitôt, il recommence à nier le fait. Saint Matthieu dit, il le nia de nouveau avec serment même. Je ne connais pas cet homme. Saint Matthieu, chapitre 26, verset 72. Et peu après, ceux qui étaient là s'étaient approchés, lui dire « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et même à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Verset 73 et 74. On a les larmes qui coulent, tellement que c'est terrible, parce que on se demande si ça nous concerne aussi. Est-il possible que celui qui renie par trois fois le Seigneur, et même avec serment, et même avec des imprécations, est-ce que c'est possible que c'est vraiment l'apôtre Pierre ? Eh bien oui, malheureusement, c'est le même homme. Le mal, donc, dont souffrait notre ami Pierre, avait de profondes racines. Il y avait une faille grave dans son caractère. Il était gouverné par ses émotions et sa conduite était toujours imprévisible, comme celle de toute personne dirigée par ses sentiments. Je me retrouve un peu là-dedans, malheureusement. L'enthousiasme élève de telles personnes, par moments, jusqu'aux cimes les plus élevées, tandis que dans d'autres heures, eh bien, la dépression les entraîne dans les abîmes. Il est possible qu'elles reçoivent des révélations divines, mais elles peuvent également faire obstacle à l'accomplissement du dessein de Dieu. Elles sont donc capables de parler et d'agir rapidement sous la pression d'une impulsion soudaine, laquelle, hélas, n'est pas forcément de source divine. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Beaucoup de problèmes surgissent dans l'œuvre du Seigneur par suite de ces défauts-là. Et cela cause de profonds ravages dans la vie de ses serviteurs. Or, comme il s'agit de dégâts affectant la base du témoignage chrétien, c'est là que la correction doit se faire. L'apôtre Pierre allait droit au but. Il n'était enclin ni à la diplomatie, ni à la duplicité. Mais voilà, il avait des émotions très fortes, c'est vrai. Et il mettait sa confiance en elle, en lui, jusqu'au jour où l'épreuve lui révéla qu'il n'était pas du tout l'homme dévoué sans réserve au Seigneur qu'il croyait vraiment être en se basant sur ses propres sentiments. Mais, chers frères et sœurs, il se pourrait, hélas, hélas, que l'amour que nous pensons avoir pour le Seigneur ne soit guère plus qu'un simple attachement sentimental. Nos réactions à son amour dues à nos sentiments ne sont pas nécessairement aussi profondes et pures que nous l'imaginons. Nous pensons l'aimer sans aucune réserve. Mais nous vivons tellement dans le domaine psychique que nous croyons être la sorte de gens que nos sentiments nous dépeignent. Nous pensons vouloir vivre pour lui seul et être prêts à mourir pour lui s'il le désire. Mais voilà, si le Seigneur ne brise pas notre propre assurance commune, eh bien, il a brisé, oui, notez et rappelez-vous qu'il a brisé celle de l'apôtre Pierre. Et nous continuerons à être déçus par nos propres sentiments et par notre vie, et cela ne sera qu'une suite de hauts et de bas. L'apôtre Pierre ne mentit pas délibérément en affirmant tout son dévouement au Seigneur. Et nous, je pense que nous ne mentons pas non plus. Mais ses sentiments lui tendirent un piège et l'ont fait s'appuyer sur une illusion. Il est horrible de mentir, mais il est lamentable de croire au mensonge. Si nous continuons à faire confiance à nos sentiments, le Seigneur devra nous faire découvrir au travers de profonds brisements la versalité d'une vie basée sur nos émotions. Il a dû le faire pour moi, j'ai honte de vous l'avouer. car nous pouvons avoir un ardent désir de le suivre, mais ne pas en être capable, s'il vous plaît. Veuillez réécouter cela très attentivement. Chers amis, avant de terminer, eh bien, loué soit Dieu d'avoir utilisé l'écroulement de l'apôtre Pierre pour l'amener à découvrir sa faiblesse naturelle, d'avoir employé sa chute profonde pour briser sa confiance en ses propres forces. Nos manquements passés n'ont-ils pas été suffisamment sérieux pour nous convaincre de la gravité de notre inconstance? Nous persévérons dans la prière pour voir clairement notre état, mais la connaissance de nos manquements passés n'est-elle pas suffisante et assez précise pour nous contraindre à nous courber devant Dieu dans une profonde contrition, lui laissant ainsi le soin de nous refondre un peu comme il l'a fait pour l'apôtre Pierre. Quand la chute de Pierre lui eut été révélée, le genre de personne qu'il était, eh bien, il est sorti, rappelez-vous, en pleurant amèrement. Amèrement. Je l'ai aussi fait cela. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur a commencé à le façonner à nouveau. Oui, jusqu'à ce que son caractère correspondît à son nouveau nom. Et c'est ainsi qu'il est devenu capable de se servir des clés du royaume avec une pleine efficacité. Je dirais pour terminer, nous ne pouvons pas nous attendre à devenir des instruments exceptionnels comme l'apôtre Pierre, mais nous croyons que le Seigneur aura pitié de nous et qu'il accomplira une œuvre de transformation dans nos vies, comme il l'a fait en lui, en Pierre. Il est donc indispensable qu'un changement radical se fasse dans nos caractères si nous voulons être des serviteurs de Dieu, dignes de ce nom. Chers amis, je voudrais ajouter quelque chose d'important. Je croyais un temps qu'on pourrait arriver à vivre sans commettre de péché. C'était naïf de ma part. J'ai compris par la suite que j'étais un pécheur sauvé par grâce. Et j'ai fait quelques centaines de CD au sujet de la guérison. Mais j'étais souvent inspiré par des célébrités, Till Osborne, Copeland et Branham et beaucoup, beaucoup d'autres célébrités. Notez que j'étais nettement plus jeune, en parfaite santé, costaud. Et j'aurais pu faire n'importe quoi en ce temps-là. Alors quand on est trop costaud, en parfaite santé, on ne comprend pas du tout, mais pas du tout, du tout, les faibles, les malades, les fragiles. On ne les comprend pas. Alors on dit, tu n'as pas la foi. Si tu priais avec foi, tu serais guéri. Point barre. Chers amis, j'ai dû réviser tout cela à mon grand âge. Attention, ça ne veut pas dire que la guérison n'est pas possible. Bien sûr, le Seigneur est venu pour sauver ceux qui étaient perdus, mais aussi pour relever ceux qui étaient fragiles. La guérison est en réalité un don du Saint-Esprit. Notez 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. L'Église a de tout temps eu la mission de prier pour les malades, selon Jacques, chapitre 5, versets 14 et 15. Le Seigneur Jésus-Christ confirme souverainement la prédication de l'Évangile par des miracles, Saint Marc, chapitre 16, versets 15 à 20. Ces expériences bibliques miraculeuses sont l'héritage du peuple de Dieu. Toutefois, cet héritage n'est pas l'Évangile lui-même. Le christianisme n'est pas une secte de guérison et l'Évangile n'est pas une formule magique pour obtenir santé et prospérité automatiquement en claquant des doigts. L'accent exagérément mis sur la guérison par ce mouvement est une sérieuse déformation de la doctrine biblique. La personne centrale de Christ et le message fondamental du salut sont malheureusement supplantés par une recherche excessive et totalement disproportionnée de la guérison. Ceux qui utilisent ces formes de guérison pour dire que Dieu nous guérit toujours de toutes nos maladies, nient en fait la réalité que les chrétiens peuvent eux aussi tomber malades. Certains d'entre eux sont guéris, d'autres pas. Les chrétiens meurent des mêmes maladies que tout le monde. Cela n'est pas agréable à entendre et pourtant c'est un fait indéniable. Si nous le refusons, nous renions également ce que la Sainte Bible elle-même enseigne au sujet de la fragilité de notre corps physique. D'un côté, le ministère de l'apôtre Paul était accompagné de signes, de prodiges et de miracles, selon 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 12, et d'un autre côté, ses associés n'étaient pas toujours en bonne santé. Il était parfois incapable de leur apporter la guérison. Pourtant, il n'a jamais attribué un seul instant leur maladie à un manque de foi, ni leur guérison à une grande foi. Épaphrodite a été malade, sur le point même de mourir, et dans son cas, Dieu a eu pitié de lui, Philippiens, chapitre 2, verset 26. Par contre, l'apôtre Paul admet que Trophime a été laissé malade à Milet, 2 Timothée, chapitre 4, verset 20. À cause de ses fréquentes indispositions d'estomac, l'apôtre Paul ne dit pas à Timothée de confesser sa foi pour obtenir sa guérison, mais il lui demande simplement de ne pas boire que de l'eau, mais de faire usage d'un peu de vin à cause de ses fréquentes indispositions. 1 Timothée chapitre 5, verset 23. Voyez-vous, il faut un équilibre en tout. Et il ne faut pas être fanatique exagéré. Par contre, nous avons le droit d'être fermement appuyés sur la sainte parole de Dieu et même de continuer de prier pour des malades, pour ceux qui ont des problèmes, de les écouter surtout, et de tenter de les aimer, de les aider ainsi. C'est pas toujours facile, c'est vrai. Je dois dire que, à mon grand âge, j'ai appris la fragilité de la vie. Je viens d'échapper à deux pneumonies infectieuses où la deuxième, le chef de l'hôpital est venu à mon chevet. Il a dit, est-ce que vous êtes d'accord qu'on ne... Comment est-ce qu'il a dit ça ? Enfin, je ne sais plus le mot qu'il a utilisé. Ah oui, qu'on ne s'acharne pas sur vous. J'ai dit, oh, je suis prêt de partir. Et le lendemain, j'ai pu prendre le taxi pour sortir. Et je vous parle maintenant sur ce CD. Oh, je serais un menteur de vous dire que ça va tout seul. Je pouvais même plus parler. Et actuellement, je dois vous avouer, humblement, parce que c'est vrai, j'ai dû accepter des... comment est-ce qu'on appelle ça ? Moi, j'appelle ça les poisons. Mais non, c'est des antibiotiques, excusez-moi. Eh bien, je dois en avaler pendant 2 semaines. J'en suis au 4e jour. C'est assez terrible, c'est très éprouvant, je ne le souhaite à personne, et si j'en sors vivant, merci Seigneur, mais que sa volonté soit faite, j'ai compris, et non pas la mienne, que la volonté du Seigneur seul soit faite, et non pas ma volonté. Et je lui ai promis que je ferai ce que je fais jusqu'à la mort, à 89 ans maintenant. Autrefois, oh, il y a 50 ans de cela, j'avais construit une mission sur cassette, que j'envoyais des cassettes dans des villages éloignés de montagne, où il n'y a ni église, ni rien. Bon, on a perdu beaucoup d'argent. C'était, je pense, mal préparé de ma part, car on devrait toujours prier avant, et non pas se lancer tête baissée dans les choses. J'étais un peu comme l'apôtre Pétre, un bulldozer qui fonce, mais qui fonce parfois sans assez réfléchir. C'est grave. Eh bien, j'ai lu ces jours-ci des choses d'un très grand serviteur de Dieu et de son épouse, et j'ai compris, en étudiant ces fascicules, que j'avais commis quelques erreurs, et je vous demande pardon, c'est mon devoir de demander pardon, et je demandais pardon au Seigneur. Car on ne doit pas seulement écouter des leaders réputés comme Till Osborne, Kenneth Hagin, Copeland, Ern Baxter et beaucoup d'autres, et les prendre pour Jésus. C'était une grave erreur de ma part. Oui, il est vrai. Et si quelqu'un est malade parmi vous, allez dans votre église, que les anciens, est-il dit, vous imposent les mains, prient pour vous. C'est pas du tout défendu, bien au contraire. Et le Seigneur, il est miséricordieux, il vous aime. Oh oui, il vous aime. Je vous aime aussi, mes chers amis, mais jamais je pourrai vous aimer comme le Seigneur vous aime. Faites-lui totalement confiance, un peu moins aux hommes et beaucoup plus à lui. Amen. Prions maintenant. Seigneur Dieu, qui nous a donné le Christ pour guide, nous te rendons grâce de cette lumière sur notre chemin et de l'éblouissante espérance du but que nous entrevoyons au terme de notre pèlerinage. Nous t'en prions, Seigneur, fortifie en nous la volonté de suivre fidèlement le Seigneur Jésus-Christ et de lui consacrer nos corps et nos âmes pour toujours, dans la joie comme dans la détresse, que sans nous détourner, nous sachions puiser en toi, Seigneur, la force de suivre jusqu'au bout de notre terrestre carrière le droit chemin de ta volonté. Amen. Amen. Au revoir, mes chers amis. À demain matin pour une nouvelle série. Merci.